VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Dia avec vous pour cette édition du Monde aujourd'hui au sommaire. Au lendemain de l'attaque qui a fait des victimes nigériennes et américaines, Niamey donne très peu de détails sur les circonstances. Des milliers de Togolais de nouveau dans les rues de Lomé pour réclamer des réformes constitutionnelles. L'armée congolaise lance une nouvelle offensive contre des miliciens Maïmaï dans l'est du pays et affirme avoir tué une dizaine d'entre eux. Et en partie magazine, nous reviendrons sur les réactions après les violences dans les régions anglophones du Cameroun.
Il faut restaurer l'ordre constitutionnel et l'ordre constitutionnel passe par avoir un gouvernement légitime. Et un gouvernement légitime est un qui ne tire pas sur ses propres citoyens.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Au Niger, après l'attaque terroriste d'hier à la frontière malienne et dans laquelle des soldats nigériens et américains sont décédés, le président Issoufou Mohamedou s'est exprimé sur le sujet, mais il n'a pas donné beaucoup de détails sur le bilan et les circonstances. Les explications de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Les autorités nigériennes n'ont toujours pas communiqué sur cette attaque, même dans l'occasion qu'il a eue d'en parler alors qu'il procédait à l'ouverture d'une réunion des épouses des chefs d'État ouest-africains sur la fistule à Niamey. Le président Issoufou Mahamadou a laissé les Nigériens sur leur soif.
Notre pays vient une fois de plus de faire l'objet d'une attaque de groupes terroristes, attaque qui s'est soldée malheureusement par un nombre important de victimes.
Un deuxième communiqué du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, diffusé jeudi après-midi, maintient les trois morts du côté américain et revoit à la baisse le bilan du côté de Niger, passant de 5 à 1 soldat tué. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Des milliers de manifestants sont de nouveau descendus dans les rues de Lomé et continuent de mettre la pression sur le pouvoir togolais. Objectif, obtenir des réformes constitutionnelles, notamment sur la limite des mandats présidentiels. Kay Lawson à Lomé.
La marche dite de la colère s'est déroulée sans incident majeur à Lomé ce 5 octobre 2017, à part quelques-uns survenus dans la périphérie nord-ouest, dans la banlieue d'Andidogomé et sur le boulevard du Mono sur la nationale numéro 2, reliant la frontière ghanéenne à celle béninoise. La situation complexe a relevé l'ancien Premier ministre, Maître Yovie Agboebo. Le référendum n'est pas la solution à la crise actuelle togolaise, a-t-il martelé. Des manifestants qui nous ont affirmé qu'ils sont en colère contre le régime en place. Si le président faisait un discours pour nous apaiser, on comprendrait. On dirait que toutes ces manifestations ne lui disent rien, a indiqué tout coléreux Aruna, l'un des manifestants. Il est 17h temps universel. C'est en ce moment même que les manifestants rallient le point de chute de la marche. Quelles seront les consignes? C'est la question qui trottine dans la tête de ces milliers de personnes qui ont manifesté ce 5 octobre 2017 à Lomé. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
10 miliciens Maïmaï ont été tués lors d'une attaque menée par l'armée congolaise dans l'est de la République démocratique du Congo. On fait le point avec Yakuba Ouedraogo.
Les forces armées de la RDC ont lancé l'attaque contre les Maïmaï Mazembe à Kampaga et les ont délogés. 2 militaires ont été blessés. À la mi-journée, le calme est revenu dans la zone. Des groupes armés contrôlent plusieurs villages et s'affrontent depuis plus de 20 ans dans le Nord Kivu. Pendant la Deuxième Guerre du Congo, de 1998 à 2003, certains de ces groupes ont été armés par le pouvoir pour lutter contre des combattants ougandais et rwandais. Beaucoup n'ont pas désarmé. Depuis le début de l'année, ces miliciens attaquent souvent les positions de l'armée dans le Nord et le Sud Kivu où opère un autre groupe, dit Maïmaï Yakutumba, qui a récemment tenté de prendre le village d'Ouvira. L'est de la RDC est déchiré par des conflits armés depuis plus de 2 décennies.
Les groupes armés en Centrafrique ont eu recours au viol et à des esclaves sexuels à travers le pays comme tactique de guerre. C'est ce qu'a indiqué Human Rights Watch. Selon cette organisation de défense des droits humains, les commandants des unités ont toléré les violences sexuelles commises par leurs troupes et, dans certains cas, semblent les avoir ordonnées ou y avoir participé eux-mêmes. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, appelle les pays de la zone franc CFA à lutter contre le financement du terrorisme et à réduire le déficit public. Il a fait cette déclaration à l'occasion d'une réunion à Paris avec ses homologues africains. Il a par ailleurs démenti les rumeurs d'une éventuelle dévaluation du franc CFA. « Ne vous fiez pas aux oiseaux de mauvais augure », a-t-il indiqué aux journalistes. Le journaliste et écrivain Pierre Payan a été condamné par la justice française à 1 000 euros d'amende pour avoir diffamé le président gabonais Ali Bongo. Pierre Payan a laissé entendre dans un de ses livres que le président gabonais avait commandité un assassinat politique. Dans ce livre intitulé « Nouvelle affaire africaine » et publié en 2014, le journaliste français laissait entendre qu'Ali Bongo était à l'origine de deux tentatives d'assassinat de Jean-Pierre Lembumba, directeur de cabinet de son père Omar Bongo, quand il était président. Les autorités malgaches ont ordonné la fermeture pour désinfection des universités de la capitale Antananarivo et de Thomasina. Ces deux régions sont touchées par une épidémie de peste qui a fait 33 morts. Eric Manerekiza.
Les universités de Thomasina et d'Antananarivo seront fermées pour cause d'assainissement, indique le ministère de l'Enseignement supérieur. Le campus de la capitale ne sera rouvert aux étudiants que la semaine prochaine. Le gouvernement a interdit les rassemblements publics dans la capitale jusqu'à nouvel ordre. Les autorités ont mis en place des barrages sanitaires aux portées de la capitale pour informer les usagers des taxis brousses qui desservent les villes côtières. Sur 231 malades, 33 personnes sont mortes. La peste a provoqué un vent de panique à Antananarivo. Les pharmacies ont été prises d'assaut pour se fournir en masques et antibiotiques. La peste se développe chez les rats, mais est véhiculée par les puces. Chez l'homme, sa forme bubonique se soigne avec des antibiotiques, mais sa forme pneumonique, transmissible par la toux, peut être fatale en très peu de temps.
La Cour d'appel de Casablanca a refusé la demande de liberté provisoire pour des militants du mouvement de contestation dans la région du Rif au nord du Maroc. Ces militants du Hirak sont incarcérés depuis plusieurs mois à la prison. Ils protestaient contre la marginalisation de la région du Rif. Leur procès s'est ouvert mardi dans une ambiance houleuse avant d'être ajourné au 17 octobre prochain.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, des élus républicains à Washington se disent prêts à discuter de l'éventualité d'interdire les mécanismes permettant de transformer les fusils semi-automatiques en fusils automatiques. Une telle conversion a permis aux tueurs de Las Vegas de multiplier le nombre de ses victimes. Après des décennies de résistance, le Parti républicain pourrait donc faire un petit pas en avant sur le sujet sensible de l'encadrement des armes individuelles. La réponse de Donald Trump à la commission du renseignement du Sénat, qui enquête sur une éventuelle collusion entre son équipe de campagne et la Russie, le président américain demande plutôt à ses sénateurs de se pencher plutôt sur les médias américains qui diffusent, selon lui, de fausses informations. Le président de cette commission, Richard Burr, a donné hier une conférence de presse pour faire le point sur l'enquête concernant un éventuel lien entre la Russie et la campagne de Donald Trump, sans toutefois aboutir à une conclusion sur la question. La justice espagnole a suspendu la séance parlementaire prévue lundi prochain au Parlement catalan sur les résultats du référendum d'autodétermination non reconnu par Madrid. Les responsables catalans prévoyaient de proclamer l'indépendance de la région durant cette séance. Le comité international de la Croix-Rouge se dit préoccupé par les centaines de civils tués en Syrie et les milliers de nouveaux déplacés alors que le pays connaît un regain de violence. Dans un communiqué, le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, a également déploré des informations faisant état d'un nombre élevé de victimes civiles dues aux violentes attaques aériennes en Syrie. Le mois de septembre a ainsi été le plus meurtrier en 2017 dans ce pays en guerre depuis plus de 6 ans, avec plus de 3 000 morts, dont près d'un millier de civils, a récemment indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La frontière entre la Turquie et le Kurdistan irakien sera bientôt fermée, c'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'était opposé au référendum d'autodétermination qui s'est tenu la semaine dernière dans cette région. Bagdad, Ankara et Téhéran imposent ainsi déjà un blocus aérien au Kurdistan irakien et l'Iran a gelé les échanges pétroliers avec cette région. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Blanche Sanou.
Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire ont signé un protocole d'accord en vue d'impulser une dynamique nouvelle pour la mobilisation des acteurs autour d'actions prioritaires de développement. Ce partenariat vise principalement à mettre en œuvre des projets structurants dans les régions et développer les investissements directs. Le trafic sur la ligne Paris-Bamako ne cesse de croître malgré les problèmes sécuritaires, les taxes élevées et la concurrence d'Aigle Azur, selon le patron d'Air France, Franck Terner. L'annonce a été faite à l'occasion du 80e anniversaire de la ligne Paris-Bamako et le directeur général de la compagnie a réaffirmé l'attachement de la compagnie à cette desserte de la zone sahélienne. Au Sénégal, le déficit commercial a augmenté de 80,9 milliards de francs CFA en août 2017, comparé au mois précédent selon la direction de la prévision et des études économiques. D'après APA News, cette situation traduit la baisse de 17,5% des exportations de biens congelés à une hausse de 25,5% des importations. Le taux de couverture des importations par les exportations s'est replié de 15,9 points pour se situer à 30,5% en août 2017.
Et on passe au sport avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
J-1 avant le choc à Bamako, Mali-Côte d'Ivoire.
Et oui, la défaite surprise à domicile en septembre contre le Gabon a ravivé l'inquiétude en Côte d'Ivoire. Les éléphants n'ont plus qu'un point d'avance en tête de leur groupe des qualifications pour le Mondial 2018. Et la presse s'impatiente avant le déplacement demain à 19h temps universel au Mali. Nous allons faire plus que tout pour passer, assure le sélectionneur Marc Wilmots, qui a pris en main les éléphants moribonds après une CAN 2017 complètement ratée. La tâche des éléphants va être dure, d'autant que seront absents les attaquants Gervinho, Seydou Doumbia, Wilfried Bony ou encore Jean-Michel Seri qui ont déclaré forfait.
Kolo Touré nommé sélectionneur adjoint de la Côte d'Ivoire.
Ah oui, l'ancien joueur ivoirien, déjà coach adjoint des équipes locales et olympiques, viendra prêter main forte à Marc Wilmots demain au Mali pour ce match décisif.
La Syrie maintient l'espoir.
L'Australie tenue en échec un but partout par la Syrie en pré-barrage asiatique après une option sur le barrage continental face au quatrième de la zone CONCACAF en vue de décrocher un ticket pour le Mondial 2018. Une rencontre disputée à Malacca en Malaisie évidemment puisque la Syrie ne peut accueillir de match international. L'Australie a ouvert le score par Robbie Cruz puis la Syrie a égalisé sur pénalty par Omar Al-Soma. Le match retour c'est mardi à Sydney.
La Russie prête pour le Mondial 2018.
Oui, la FIFA s'est dit satisfaite, soulignant quand même qu'un travail significatif restait encore nécessaire. De façon générale, la préparation est bonne, a déclaré Colin Smith, le directeur des compétitions de la FIFA, à l'issue d'une visite de 10 jours dans le pays. Nous avons observé la préparation des stades, mais aussi les villes hautes dans leur ensemble. C'est-à-dire que nous avons tout regardé, a-t-il encore ajouté.
Et la Coupe du Monde 2026, on en parle aussi.
La FIFA a promis un processus d'attribution du Mondial 2026 transparent après les suspicions des Coupes du Monde 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. C'est ce que déclare Gianni Infantino dans une tribune à paraître demain dans le magazine de la FIFA. On rappelle qu'à ce jour, une seule candidature commune, États-Unis, Canada, Mexique, fait figure de favorite pour 2026 face à celle du Maroc. La Coupe du Monde 2026, ce sera la première Coupe du Monde à 48 équipes.
Merci Nicolas.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le 5 octobre 2017, les Togolais se rappellent 27 ans jour pour jour du premier soulèvement populaire contre le régime de Gnassingbé et Adema. Cette marche avait été réprimée dans le sang. Aujourd'hui encore, les manifestants ont barré la route avec des barricades de pierre et d'autres qui empêchent les gens de circuler. L'opposition a mobilisé la population pour obtenir des réformes instaurant une limitation des mandats présidentiels. Pour le rappel des faits sur la genèse de ce mouvement, Eric Manirakiza a joint à Lomé un professeur d'histoire contemporaine à l'université de Lomé. Il s'agit de Michel Gowé-Akoué.
Ce jour-là, il faut dire que ça faisait 23 ans que les Togolais subissaient le jour d'une dictature marquée par les atteintes aux droits de l'homme, que beaucoup d'actions étaient faites déjà avant 90, notamment même en 86, une intervention militaire venant de l'extérieur. Mais ce jour, il y a des partis qui se sont organisés en clandestinité, notamment la CDPA, et qui s'est fait reconnaître à Genève. Et c'est donc avec les jeunes de la CDPA que des tracts ont été distribués donc à Lomé, et deux jeunes ont été arrêtés. On les avait jugés et on devait donner le verdict le 5 octobre. Et toute la jeunesse était là, notamment la jeunesse étudiantine, et ils ont dit que ça ne peut pas continuer. N'oubliez pas que nous sommes un peu dans la période du vent de l'Ouest, le mouvement démocratique. Et là, les jeunes se sont chantés l'hymne national. Et c'est comme ça qu'une insurrection populaire a commencé. On a saccagé les commissariats, brûlé les véhicules administratifs et autres. Et le Togo s'était embrasé, hein, pratiquement. Et les jours ont suivi. Et c'est tout le Togo qui est entré dans l'action. C'est ça qui nous a conduit progressivement au code donc, d'ouverture à la charte des partis et à la conférence nationale qui a mis en place les nouvelles institutions.
Il y a eu une répression sanglante. Est-ce que vous connaissez exactement le nombre de morts à l'époque?
Il y a beaucoup de chiffres qui ont été avancés. Et tout le processus qui allait jusqu'à la mise en place donc, du pouvoir, il y a plus d'une centaine de morts. Il y a eu beaucoup quand même de morts et de blessés. En 2005, et après donc, le décès du Gnassingbé Yadema, pour que le fils y accède, il y a eu donc, beaucoup de mouvements qui ont composé par plus de 500 morts. Les rapports des Nations Unies parlent de 500 morts, d'autres rapports, le rapport intérieur parle de 700 à 800 morts, et d'autres parlent de 1000 morts. Au-delà, il y a des morts qui n'ont pas pu être comptabilisés.
Professeur, il y a eu une forte mobilisation aujourd'hui en mémoire de cette date. Est-ce qu'on peut lier les revendications actuelles avec les revendications de l'époque?
Oui, nous disons que les revendications de l'époque n'ont pas été totalement satisfaites. Tous les acquis sont plus ou moins remis en cause aujourd'hui parce que nous assistons à un retour à l'immobilisme avec le parti État qui continue donc de gouverner. Alors si on compte de là donc le pouvoir du père et le pouvoir du fils aujourd'hui, ça fait 50 ans. On dirait pratiquement que nous sommes dans un système du valériste où du père en fils, donc le pouvoir est au maître de Gnassingbé qui continue de régenter avec toutes les atteintes aux droits de l'homme.
C'était Michel Gowé-Akoué, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lomé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En Centrafrique, Human Rights Watch accuse les groupes armés de recourir au viol et à l'esclavage sexuel comme arme de guerre depuis près de 5 ans. Des commandants ont toléré que leurs forces commettent des violences sexuelles à grande échelle et les auteurs de ces crimes n'ont jamais été arrêtés ni traduits en justice. Solange Nyamulisa a joint Hilary Margolis, chercheuse à Human Rights Watch.
Nous avons fait des entretiens avec presque 300 femmes et filles qui étaient des victimes de violences sexuelles parmi les femmes. On a documenté plus que 300 cas. Les auteurs étaient parmi des groupes armés, donc on avait des cas plutôt de Seleka et Antebalaka, mais aussi quelques cas qui étaient faits par un nouveau groupe qui s'appelle 3R. On a identifié certains commandants, certains chefs des groupes armés. Soit ils ont participé eux-mêmes dans la violence sexuelle, soit ils étaient des chefs qui ont connu ou ont laissé leurs éléments dans la violence sexuelle. Mais en général, on a trouvé que c'était quelque chose qui était vraiment toléré par des groupes et qui était vraiment fait partout, un peu partout le pays, partout parmi les groupes.
Dans votre rapport, vous avez mentionné 6 dirigeants de groupes armés qui ont été identifiés par des victimes.
Il y a certains qui ont des noms de guerre. Par exemple, il y a un chef qui s'appelle Angelo, qui est bien connu déjà dans le pays. Il y a un autre qui s'appelle Rambo, un autre qui s'appelle Ali Darafa, qui est le chef d'un grand groupe de Seleka.
En dehors des groupes armés, il y a aussi les casques bleus de l'ONU, la force française qui ont été accusés des violences sexuelles, mais jusqu'à aujourd'hui, aucune suite.
Oui, c'est vrai, c'est aussi un problème. Il faut se battre contre l'impunité pour n'importe qui fait le violence sexuelle. Mais en fait, pour ce rapport, on s'est focalisé sur les attaques par des groupes armés parce que on trouve que, franchement, parmi la population en général, il y a beaucoup plus de victimes de violences par des groupes armés.
Pourquoi jusqu'à aujourd'hui les auteurs n'ont pas été arrêtés et traduits en justice?
D'abord, il n'y a pas un bon système judiciaire qui fonctionne. Beaucoup des structures étaient détruites pendant le conflit, mais même avant le conflit, c'était un système qui ne fonctionne pas bien. Il y avait beaucoup d'impunité depuis des années, surtout pour la violence sexuelle. Il n'y avait pas beaucoup d'enquêtes. Il y a le nouveau corps pénal spécial qui donne une opportunité pour combattre l'impunité.
C'était Hilary Margolis, chercheuse à Human Rights Watch.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Burundi, le prix de l'électricité a doublé depuis septembre. La population s'interroge car les prix des matières premières, des matières de première nécessité ne cessent de flamber. Pour les autorités, mieux vaut une hausse de prix de l'électricité qu'une pénurie. Reportage à Bujumbura de Christophe Kurunziza.
Oui, c'est le moindre mal. C'est le moindre mal pour éviter au moins l'utilisation des bougies qui causent des accidents dans les ménages. On entend des enfants qui sont brûlés, qui vont à l'hôpital à cause des bougies qu'on utilise dans la place de l'électricité. Donc c'est malheureux, mais au moins c'est le moindre mal.
Bien des Burundais demandent à la régie des eaux de revoir leur décision. Ce Burundais moyen ne cesse de se plaindre.
Nous continuons à nous plaindre parce que, vous savez, ici chez nous, beaucoup de gens n'ont pas de quoi travailler. On est chômeur. Alors, augmenter le prix de l'électricité, ça me dérange beaucoup. Parce qu'on n'a pas assez d'argent pour acheter ça. Mais on ne trouve pas de quoi manger suffisamment.
Et qu'est-ce que vous demandez à la Régie des Eaux ?
De baisser le prix.
Le directeur de la Régie des Eaux reconnaît que le pays fait face à une crise énergétique. Jéroboam Nicoba Nyanga estime que les centrales thermiques étaient le seul remède au manque de courant. Vaut mieux une hausse du prix de l'électricité que le manque de courant, indique-t-il. Mais ce responsable affirme qu'à la longue, les centrales thermiques ne sont pas la solution car elles coûtent plus cher que l'énergie hydroélectrique. L'Association burundaise des consommateurs s'indigne des explications fournies par la Régie des eaux et se pose la question de savoir pourquoi la Régie des eaux n'investit pas dans la construction des barrages hydroélectriques. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Les États-Unis ont jugé hier inacceptables les violences en marge d'une proclamation symbolique d'indépendance dans les zones anglophones du Cameroun le 1er octobre dernier, appelant ainsi les autorités de Yaoundé à respecter les droits de l'homme. Dans un communiqué, le département d'État américain se dit profondément préoccupé par la violence et les pertes en vies humaines lors de manifestations qui ont eu lieu dans les régions camerounaises du nord-ouest et du sud-ouest. Pour en parler, John Lyndon a joint à Bamenda Joshua Ossi, le vice-président du SDF, principal parti d'opposition.
Il y a beaucoup trop de pertes en vie humaine, beaucoup trop de violence de la part des autorités de maintien de l'ordre pour une simple manifestation. Vous voyez, d'un côté de la frontière, du côté francophone, les Camerounais ont manifesté pour le 1er octobre. Il n'y a eu aucun tir. Et du côté anglophone, à cause des vérités des sécessionnistes, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles. Il y a malheureusement beaucoup trop de décès survenus le 1er octobre et beaucoup trop de personnes sont aujourd'hui incarcérées ou portées disparues.
Les États-Unis appellent justement le gouvernement camerounais à respecter les droits humains et la liberté d'expression et à dialoguer pour trouver une issue aux problèmes des populations dans les régions anglophones. Est-ce que vous pensez que ce message peut être entendu par les autorités à Yaoundé?
Ben, nous espérons que les autorités gardent raison et reviennent un tout petit peu à des sentiments plus patriotiques et arrêtent de tuer nos compatriotes. Ça fait un an que le SDF demande exactement ça. Nous, notre grande crainte aujourd'hui, c'est qu'on soit arrivé à un point de non-retour et que le dialogue ne soit plus possible avec ceux qui tuent des Camerounais aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas d'un côté tuer en toute impunité des centaines de Camerounais et de l'autre côté appeler au dialogue et commencer à dialoguer comme si de rien n'était. Donc nous pensons qu'il y a un élément que le département d'État a négligé dans son communiqué, c'est celui de faire une enquête pour faire la lumière sur tous ces meurtres et que ceux qui ont commandité, qui ont demandé à l'armée de tirer à balles réelles sur les manifestants.
Est-ce qu'au sein du SDF, vous pensez qu'il y a espoir que ce problème se résolve dans la paix?
Il faut absolument, au sein du SDF, il faut restaurer l'ordre constitutionnel et l'ordre constitutionnel passe par avoir un gouvernement légitime et un gouvernement légitime est un qui ne tire pas sur ses propres citoyens mais qui les protège. Un gouvernement légitime c'est un qui travaille pour son pays et qui n'est pas en vacances, dont le chef n'est pas en vacances pendant que le pays brûle. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on reconnaisse que le problème n'est ni à Bamenda ni à Bouya, mais le problème il est à Yaoundé avec le président de la République et que c'est M. Biya le problème.
C'était Joshua Ossi, vice-président du SDF, principal parti d'opposition au Cameroun.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
À la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Sims Lumami, à la console Chang Wang, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et également rendez-vous sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.